Vous écoutez RTL.
Tout de suite, sur RTL, on plonge dans la Belle Époque. Mais d'ailleurs, c'était quand la Belle Époque? C'est ce que l'on va demander tout de suite à notre invité, l'historien Dominique Khalifa. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Très heureux de vous accueillir sur RTL. Question simple, mais qui pourtant divise les historiens, c'est ça?
Oh, pas tant que ça, si vous voulez, il y a eu des propositions un petit peu différentes pour... On est quand même toujours à peu près autour de la même période, hein, la fin du 19e, l'entrée dans le 20e siècle. Mais la réalité, la difficulté, c'est que personne à l'époque n'a jamais utilisé cette expression. Donc on peut jouer avec tout ça, hein, peut jouer avec tout ça.
Oui, on va expliquer effectivement quand cette expression est née et on aura peut-être des surprises. Il y a quelques marqueurs, si on doit déjà en poser quelques-uns. C'est quoi? C'est la fin de l'affaire Dreyfus, par exemple?
La fin de l'affaire Dreyfus, c'est l'expo de 1900. C'est vraiment l'entrée dans le 20e siècle. Hein. C'est quelque chose de devait vraiment cristalliser, symboliser le moment. C'est effectivement l'idée qu'on rentre là dans le siècle nouveau.
Et ça dure jusqu'à...
Jusqu'au moment où la Première Guerre mondiale va marquer la fin de la récréation. Hein.
La Belle Époque commence avec le nouveau siècle. Bienvenue en 1900, les curieux.
Merci Dom Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL. Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
C'est la danse nouvelle, mademoiselle. Cette danse qui vous aguiche, c'est la matiche.
On est bien entre curieux sur RTL.
Mayol qui chante la matchiche, Viens Poupoule avec Charlus et Berthe Silva qui chante Froufrou, c'est l'histoire de la Belle Époque que l'on vous raconte sur RTL.
C'est pour ça que vous m'avez appelé toute la journée comme ça, Viens Poupoule, Thomas. Je comprends, vous prépariez ce sujet-là.
Mais voilà, c'est tout. Vous pensiez que c'était désagréable, mais absolument pas.
Oh, j'ai fini par m'y faire.
Notre invité, Dominique Khalifa, qui est professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, il connaît bien ces chansons. Bonsoir, Dominique Khalifa. Froufrou, c'est le tube de l'époque, de la Belle Époque.
Oui, les trois que nous avons entendus, hein, on est dans de la grande chanson de l'époque. Froufrou, Viens Poupoule également. Hein, on est vraiment devant des musiques, des airs qui ont marqué toute une génération et qui sont revenus en permanence en boucle durant toutes les périodes qui suivaient pour incarner précisément ce moment, ce grand moment du début du siècle.
Donc ce sont des chansons joyeuses, amoureuses?
Ce sont des chansons joyeuses, effectivement. Viens Poupoule, ce soir je t'appelle café-concert, hein, dis les paroles. La légèreté, l'insouciance, alors je ne sais pas si c'est l'esprit Belle Époque, en tout cas c'est l'esprit qu'on a voulu lui donner. Oui.
Et Mayol qui chantait la matchiche, c'est vraiment une star de l'époque.
Oui, c'est une grande star de l'époque, hein, oui, avec quelques autres, hein, avec bien sûr Fréhel, Aristide Bruand, ou même les débuts de Chevalier et de Mistinguette, hein, à la fin de la période, c'est déjà leur début, quoi. Donc on a quand même de très très grandes vedettes de la culture musicale, de la culture de music hall, du café concert et de la revue en France.
Alors vous nous l'avez dit, les historiens choisissent le plus souvent l'exposition universelle de 1900 comme point de départ de la Belle Époque, mais les Français de 1900, ils n'employaient pas cette expression.
Non, ils l'employaient pas du tout. Ça fait partie de ces noms du temps, effectivement, qui arrivent. On ne sait pas trop comment. C'était d'ailleurs un peu l'énigme pour moi. C'est le truc qui m'a intéressé au départ. À partir de quand a-t-on appelé cette fameuse Belle Époque? Non, les gens de 1900, ils la nommaient pas leur période.
Oui.
C'était peut-être un peu le bon temps parce que c'est vrai que la période a quelques aspects, on va dire relativement heureux, mais ils ne l'appelaient pas Belle Époque.
Et à partir de quand elle s'impose pour de bon cette expression?
Alors,
la Belle Époque pour désigner ces 15 années-là.
Tout le monde a dit, et tous les livres l'évoquent, après la guerre, on dit après la guerre, mais en fait, c'est pas vrai. Moi aussi, j'ai dû écrire ça autrefois. Évidemment, c'est plausible, hein, après la guerre, mais si vous voulez, les gens des années folles, les gens des années 20, ils avaient d'autres chats à fouetter que de regarder ce qu'avaient fait leurs parents. Dans les années 20, 25, on va de l'avant, on danse, on va au cinéma voir les nouvelles vedettes américaines, on n'a pas du tout les yeux braqués sur ce qui s'est passé avant. C'est beaucoup plus tard, hein, à la fin des années 30 et même pendant la Seconde Guerre mondiale, que l'expression arrive. Et c'est amusant que vous ayez passé chez les froufrous, etc., etc., parce que précisément, l'expression Belle Époque, elle est arrivée pour la première fois en novembre 40 dans une émission de radio. Dans une émission de radio sur Radio Paris, et le gars, l'animateur, qui était assez célèbre à l'époque, qui s'appelait André Aléo, il a inventé une émission de radio qui s'appelait « À la Belle Époque » et qui passait des chansons de 1900. Et c'est comme ça, effectivement, que l'expression est née, enfin en tout cas, qu'elle est née pour caractériser le début du siècle, et c'est comme ça, effectivement, et puis alors ensuite c'est passé au music hall, dans les revues, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus tard qu'on le pensait.
Dominique Khalifa, dont on aime bien les mots de curieux dans notre émission, ouais. La Belle Époque, c'est ce qu'on appelle un chronomonyme.
Chrononyme, c'est ce que les linguistes appellent un chronomyme. Chronos, ouais. Le temps,
ah,
et nomos,
et
le nom, un nom du temps. Comme fin de siècle, comme trente glorieuses,
ah oui.
Comme année folle, etc. Comme hein, un nom du temps.
Chrononyme, ça y est, on l'a intégré. En tout cas, c'est dans votre livre, La véritable histoire de la Belle Époque, qui est publié chez Fayard. Est-ce que chacun invente sa Belle Époque selon sa génération? Vous avez posé cette question à vos étudiants,
ça,
je crois.
Non, on a fait un truc très très drôle avec mes étudiants l'année dernière. On a fait un espèce de micro-trottoir. C'est-à-dire qu'on avait fait un cours là-dessus, je les ai envoyés un peu avec des questions pour aller interroger les gens dans la rue. C'était un samedi matin, vous voyez, boulevard Saint-Michel, etc. Et donc, ils posaient la question à des gens, qu'est-ce que c'est pour vous la Belle Époque? Et ce qui était très amusant, c'était que, alors évidemment, il y avait des gens qui savaient, mais pas beaucoup. On avait beaucoup de confusion avec les années 20. Hein, oui. Pour beaucoup de personnes, c'était les années folles, les robes Charleston, les femmes, les garçons, etc. Et puis après, il y a des gens qui... Il y en a même un vieux monsieur qui nous a dit... Enfin, un vieux monsieur, pas si vieux, qui nous a dit, bon, la Belle Époque, c'est quand la France a gagné la Coupe du Monde de foot.
En 98.
Donc finalement, l'expression est amusante, effectivement.
Oui. À chacun sa Belle Époque.
À chacun sa Belle Époque, absolument.
Mais derrière ça, parce qu'on va voir qu'elle revient régulièrement, elle revient à la mode, si j'ose dire. Il y a quoi? Il y a l'idée d'une... Il y a une nostalgie, le « c'était mieux avant »
Oui, il y a fondamentalement l'idée d'une nostalgie. Il y a quand même quelques critères un peu objectifs qui nous disent quand même qu'au début du siècle, il y a plein de, la croissance économique est importante, le niveau de vie augmente, c'est la paix. Hein, je veux dire, on connaît une grande période de paix. Période de prospérité, hein, les salaires augmentent, etc. Pas pour tout le monde, c'est vrai, mais enfin, il y a quand même globalement. Et puis, culturellement, effectivement, il y a le sentiment un peu d'un rayon de soleil, d'un moment un peu souriant sur le plan culturel. Donc ça, c'est important. Mais c'est vrai, vous avez raison, la plupart des gens, effectivement, quand ils pensent au temps qui précède, ont envie de chacun de pointer... Bah, l'âge d'or qui correspond à celui qu'on a envie de voir.
Dominique Khalifa, on va donc raconter cette période, la Belle Époque, qui commence avec le XXe siècle. Et justement, en 1899, les intellectuels s'échappent autour de la question. Alors, il commence quand, le XXe siècle?
Ah oui, alors il y a tout un débat. Alors, effectivement, tout le monde avait envie.
Les 19e voilà, contre les 20e.
Tout le monde avait envie, évidemment. Vous l'imaginez bien que le 20e siècle commence le 1er janvier 1900.
Bah oui.
Sauf que ça ne marche pas. On sait très bien qu'il n'y a pas eu d'an zéro. Hein, donc, mathématiquement, le 20e ne commence que le 1er janvier 1901, comme le 21e n'a commencé qu'en 2001. Mais enfin, on a eu à peu près le même débat.
Bah bien sûr, on a fait le passage à l'an 2000 et on disait le 21e siècle démarre.
Alors, ça a été un peu, c'est un peu une farce. Un peu, ouais. Mais dans les journaux, au début de l'année 1900, vont s'opposer ceux qui disent ça y est, on y est, le 20e siècle. Et puis tous les autres qui disent non, attendez encore un peu, attendez encore un peu. Et finalement, effectivement, le sentiment général qui l'a emporté. En 1900, les gens étaient rentrés dans le 20e siècle.
Ouais. Allez, on va visiter, grâce à vous, Dominique Khalifa, l'exposition universelle de Paris en 1900, justement.
RTL. 1900. En France, les élections ont porté au pouvoir une majorité républicaine.
Sidonie Bonnec.
L'atelier de Louis Renault compte deux ouvriers.
Thomas Hugues.
Freud étudie les rêves. Max Planck, la théorie des quantas. Pavlov, les réflexes conditionnés. Rutherford, la structure de l'atome. Einstein, la relativité.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
1900, la première femme avocat vient de prêter serment. Et voilà pas mal de temps que la première femme médecin exerce déjà. Les filles vont au lycée. Et si quelques étudiantes téméraires vont en Sorbonne, il faudra attendre 1908 pour y voir professer une femme, Marie Curie.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
1900, le début de la Belle Époque, 15 premières années du XXe siècle. 15 années synonymes d'insouciance, de joie de vivre, d'audace esthétique et d'innovation scientifique. On revit cette période avec notre invité, l'historien Dominique Khalifa. Et c'est l'exposition universelle de 1900 qui va marquer cette entrée, qui va inaugurer cette entrée dans le nouveau siècle. C'est, on peut dire, la porte d'entrée dans le XXe siècle. D'ailleurs, est-ce que cette entrée dans l'exposition universelle était marquée comme ça physiquement par une porte d'entrée?
Il y avait une arche, effectivement, avec une grande statue de la Parisienne. C'était une femme, la Parisienne, qui accueillait les visiteurs dans l'expo. Et ça, évidemment, ça a fait beaucoup parler, parce que c'était aussi une allégorie de cette France. Mais finalement, l'expo, elle est beaucoup moins ouverte sur le XXe, paradoxalement, qu'elle l'est une expo plutôt rétrospective. En fait, c'était une exposition qui voulait regarder, tirer le bilan du siècle écoulé. Hein. Et curieusement, mais vous avez raison, on en a fait à partir de là. Elle est pour nous devenue le symbole du nouveau siècle. Mais les contemporains, eux, voulaient en faire une espèce de moment bilan.
C'est où à Paris, si on essaye de resituer les choses?
Alors, c'était essentiellement le long de la Seine, dans le Champ de Mars, aussi d'autre côté. Bien sûr, il y a des éléments qui nous en restent. Le Petit Palais et le Grand Palais sont des bâtiments qui sont construits pour l'expo. La gare d'Orsay également, de l'autre côté. Donc, en fait, on était tout le long de la Seine à cet endroit-là. Et ce qui était vraiment extraordinaire, et ce qui a sans doute été un des clous, en tout cas, pour les visiteurs, pour les 51 millions de visiteurs, quand même, de l'expo. De avril à novembre, vous voyez, à peu près, donc c'est énormément.
Hein,
c'est le plus gros succès d'une exposition universelle.
Oui, des gens du monde entier, évidemment.
Beaucoup de Français, ouais. Mais aussi des gens du monde entier. Et donc, on avait construit tout le long du quai de la Seine un trottoir roulant, peu comme ceux qu'on n'aime pas voir à Châtelet ou à Montparnasse, vous voyez. Mais alors là, les gens étaient complètement fascinés par ce truc, parce qu'effectivement, c'était pour la première fois qu'on pouvait faire trois rangées de trottoirs en bois qui roulaient, qui permettaient aux gens d'avancer le long de la Seine.
Avec un sentiment de modernité, évidemment, absolu.
Avec un sentiment d'hyper-modernité.
Vous évoquiez, Dominique Khalifa, le Grand Palais, qui est pas loin d'Hertel. On passe tous les jours devant, et c'est vraiment une merveille à observer, qui abritait pendant cette exposition universelle, l'exposition centenale. Qu'est-ce qu'on pouvait y voir?
C'était une rétrospective de la peinture du 19e siècle. Alors, c'est assez curieux parce que vous avez raison, dans le petit récapitulatif, on voit, nous, la belle époque, les années 1900 comme celle des avant-gardes de la modernité, mais on commence par faire un grand bilan du passé. Et les peintres qu'on expose à l'expo centennale, c'est Ingres, Corot, Delacroix...
Des classiques
classiques de l'époque. Ça va aussi un peu vers les impressionnistes.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que les impressionnistes, c'est la fin du 19e
siècle. Mais en tout cas, pas les peintres de l'avant-garde du temps, qui sont effectivement très peu goûté encore à l'époque.
Oui, donc on est dans la philosophie de cette exposition universelle, c'est on l'a compris, d'avoir
c'est le bilan, un regard vers
le passé et un bilan, mais aussi une glorification de la technique. Donc il y a quand même, ça c'est plutôt au palais du Trocadéro, c'est ça?
Non, c'est après ça. Depuis le début des expos universelles, depuis Londres 1851, la vocation de l'expo universelle, c'est de glorifier, c'est d'être la vitrine de la modernité, de la technologie. Et Paris 1900, déjà en 89, on avait eu la Tour Eiffel, hein, on peut difficilement faire plus moderne. Et en 1900, on a d'autres éléments, dont l'électricité. Hein, c'est quand même le grand moment où la fée, ce qu'on appelle la fée électricité, est en train d'illuminer, autrement, d'abolir la nuit. Pensez les contemporains, vous rendez compte, on abolit la nuit.
C'est joli, ça. Hein,
une belle métaphore.
Et métaphore que vous employez d'ailleurs dans votre livre, Dominique Khalifa, La véritable histoire de la belle époque, aux éditions Fayard, je crois 150 000 lampes électriques apposées lors de cette exposition
Un savant avait même imaginé à un moment créer un phare avec un immense projecteur tout en haut qui aurait pu être une espèce de soleil artificiel pour abolir à jamais la nuit. Vous voyez. Alors, finalement, on ne l'a pas fait.
Même si on apprend avec vous que cette exposition universelle était plutôt un bilan des talents du siècle passé, est-ce que quand même elle contamine les Français avec une sorte d'optimisme, d'excitation pour l'avenir ?
Oui, enfin...
Ou le présent, même, d'ailleurs.
Ce moment est un moment de positivisme. On croit au progrès. Hein. C'est une idée dont on a un peu perdu la trace aujourd'hui, mais on croit vraiment que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et tout le mouvement effectivement qui s'amorce là, tant sur le plan des techniques, mais aussi sur le plan de la vie politique, de la vie scientifique, de la vie... On a vraiment le sentiment. Et d'ailleurs, faire le bilan, c'est pas forcément non plus négatif. Hein. C'est faire le bilan pour repartir.
Hein. Et, compléter,
et,
continuer.
Il y a cette idée, effectivement, que tout devient possible. D'une certaine manière, il y a les possibles sont ouverts. Hein, c'est ça, d'une certaine manière, que nous dit l'année 1900.
Mais pendant ces 6 mois d'exposition universelle, est-ce qu'il y a eu des critiques qui se sont aussi exprimées chez des journalistes, des politiques
Oui, à droite, hein, dans le mouvement nationaliste et antisémite qui peine à digérer la grâce de Dreyfus qui est intervenue quelques temps plus tard.
Septembre 1899,
oui. Ou dans les milieux d'extrême gauche qui sont des mouvements à l'époque qui sont très très contestataires, dans les milieux anarcho-syndicalistes, dans les mouvements révolutionnaires, on nous dit c'est de la poudre aux yeux, c'est un truc pour gogo, l'exposition universelle, les vrais combats continuent. Mais finalement, effectivement, la France a quand même été portée par ce mouvement, la France et l'étranger. Et car ce Paris de 1900, c'est aussi un Paris qui va s'imposer assez largement à l'échelle du monde.
Elle se termine quand ? Elle se termine comment, cette exposition universelle, symboliquement ?
Bah, on démonte. Il y a un matin où on, démonte les monuments.
Il y a un coup de canon depuis la Tour Eiffel, c'est ça ?
Oui, il y a des coups de canon qui sont tirés. Moi, j'ai beaucoup aimé, vous avez raison de parler de ça, j'ai beaucoup aimé cette idée du démontage, parce qu'effectivement, il crée déjà une première petite nostalgie. Il y a des journalistes qui disent « Ah ben quoi, c'est fini ?» Un peu comme, d'une certaine manière, la Belle Époque, hein, quand elle va se terminer, enfin, la période qu'on appellera par la suite Belle Époque. « Ah ben quoi, ça y est, c'est fini ? Qu'est-ce que c'était ?» Vous voyez, avec ce retour, effectivement, immédiatement sur la nostalgie.
Alors cette Belle Époque, elle se termine avec la déclaration de guerre en 1914, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Pour beaucoup, l'année 1913 va marquer, notamment sur le plan artistique, son apogée, Proust, Apollinaire et puis Stravinsky avec le Sacre du Printemps. On écoute un extrait.
On continue de vous raconter la Belle Époque. C'est dans un instant sur RTL.
La véritable histoire de la Belle Époque, c'est le thème de notre curiosité et le titre du livre de notre invité, l'historien Dominique Khalifa. On va continuer de donner 2-3 clés comme ça de ces 15 années entre 1900 et puis le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Notamment, il y a dans votre livre, j'ai trouvé un élément que je trouve intéressant parce que il est vraiment dans notre quotidien. La façon de... De quoi de dire l'heure a changé.
Oui, de dire les heures, effectivement.
Il est quelle heure, là, par exemple, à la Belle Époque
Il est la même heure que nous, là. Justement, à partir de 1900, il est 21h51. Mais
comment on disait avant?
On disait plutôt 9h du soir, vous voyez. Presque 9h...
9h50 du soir, on disait.
Ou 10h-10.
Il a fallu édicter une nouvelle règle?
Il y a une mesure, effectivement, qui est prise par l'Observatoire et par le Bureau des Longitudes pour simplifier pour parler l'heure en 24 heures et non plus en 12 et 12, mais on le fait encore d'une certaine manière. Ça a fait rigoler pas mal de contemporains parce qu'ils disaient « On pourra plus avoir un 5 à 7 alors ?» Un 5 à 7 galant. On aura un 17-19.
C'était pour éviter les quiproquos aussi, c'est ça ?
Voilà, c'était effectivement pour normaliser un petit peu et rendre la chose, éviter tout malentendu.
Bah oui, du coup, les 5 à 7, ils se retrouvaient, ils n'étaient pas tous les deux au rendez-vous parce qu'il y en avait un qui était là le matin.
Ça fait tôt, 5-7.
Il faut être du matin. Et puis alors, c'est aussi une période de constructeurs. J'entendais tout à l'heure 1900 dans la mise en onde de Sébastien Duduy. On avait Monsieur Renault à 2 ouvriers, donc c'est quoi ? C'est l'ère des constructeurs aussi, cette période ?
La Belle Époque ? On évoquait tout à l'heure avec la technologie, les grandes inventions. On est quand même le pays qui, à cette période, a l'innovation automobile, l'innovation aéronautique parmi les plus fortes du monde. On est vraiment pionnier. La France est vraiment pionnière à cet égard. Le nombre de constructeurs automobiles est un record du monde à l'époque. C'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour l'aéronautique, c'est également vrai pour le cinéma, de la même manière. N'oublions pas que c'est en 1895, dans ces prémices de Belle Époque, que la première projection publique a eu lieu, des Frères Lumière, boulevard des Capucines, dans le salon indien du Grand Café. Mm-hmm. Et le cinéma, s'il fallait effectivement une invention qui est à la fois une technologie, une industrie, et à spectacle culturel, on ne peut pas trouver mieux.
La Belle Époque, vous nous l'avez expliqué, Dominique Khalifa, commence avec l'exposition universelle de 1900 et puis se termine avec la déclaration de la guerre, c'est en juillet 1914. Ça veut dire que l'année 2013, elle est charnière. 1913, elle marque vraiment l'apogée de ce qu'on a appelé la Belle Époque, par exemple en matière artistique.
Oui, alors là encore, à la fois vous avez raison et en même temps il faut se méfier parce que c'est absolument vrai. L'année 1913 a été en quelque sorte une sorte de concentré d'innovation, de grandes inventions, d'œuvres majeures. On écoutait tout à l'heure des petits morceaux du Sac du Printemps, mais on pourrait dire aussi Marcel Proust, la Recherche du Temps Perdu, Valérie Larbeau, les grands moments de la NRF, la Nouvelle Revue Française que Gallimard et Gide ont lancé. C'est vrai sur le plan pictural, les cubes Apollinaire et les cubistes. C'est vrai sur le plan musical, les ballets russes sur le terme. Mais en même temps, tout ça, personne ne s'en rend compte au moment présent. Ce ne sont pas les événements qui retiennent les gens, ces avant-gardes-là que nous allons évidemment célébrer à juste titre dans les années et les décennies qui viennent et qui vont nous permettre de voir l'année 1913 comme une espèce d'année merveilleuse, d'année climatérique. Les contemporains ne l'ont pas vraiment senti. Donc c'est comme la Belle Époque, c'est une autre forme de reconstruction.
Mais d'ailleurs, Dominique Khalifa, le Sacre du Printemps, il fait même scandale quand il est joué pour la première fois à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées en mai 1913. Comment ça se passe ?
Absolument, si vous voulez, c'est un type... La, en termes de rythmique, en termes de sonorité, de dissonance, ce sont des choses effectivement que les contemporains, qui sont d'une certaine manière très académiques en termes artistiques, n'acceptent pas ou acceptent mal. D'ailleurs, vous citez le théâtre des Champs-Élysées, là aussi, il y a une création de l'époque, il y a une création de cette année-là. Donc, on n'accepte pas plus les ballets russes que Picasso ou que Apollinaire, parce qu'effectivement, c'est trop
avant-gardiste, presque, voilà, d'une certaine façon. C'est Nijinsky, je crois, qui faisait la chorégraphie.
Absolument.
Et il était obligé de crier ses ordres aux danseurs, tellement il y avait de brouhaha et de cris dans
absolument.
La salle, parce que l'œuvre faisait scandale.
Absolument. Donc tout ça, c'est quelque chose de fantastique parce qu'effectivement, ça va donner du grain à moudre. C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer dans le bouquin. Ça va donner du grain à moudre à tout le XXe siècle qui va se reconnaître en quelque sorte. Le XXe siècle qui vient derrière se reconnaît dans ses premières années.
Hein. Et ce livre dont vous parlez, Dominique Khalifa, c'est La véritable histoire de la Belle Époque aux éditions Fayard. Et vous racontez que cette époque sera régulièrement remise au goût du jour. Ça commence d'ailleurs dans les années 30. Ouais. De quelle manière ?
Dès 1931, Paul Morand, qui était un écrivain assez célèbre, il n'était pas vieux en 1900, il devait avoir une douzaine d'années, écrit un bouquin qui fait scandale là aussi, qui s'appelle 1900, qui est une charge extrêmement dure contre une période qu'il estime avoir été complètement stupide. On écrivait mal, et tout simplement parce que, si vous voulez, Morand en veut à la génération de ses parents, et puis il faut avancer, quoi. Alors ça, c'est au début des années 30, mais à la fin des années 30, et surtout dans les années 40-50, c'est tout le contraire qu'on va voir, on va célébrer vraiment ce début du siècle comme le grand moment, et c'est d'ailleurs pas étonnant qu'on invente l'expression, le chrononyme à cette époque.
Oui, donc la Belle Époque, vous nous l'avez dit, l'expression est inventée à la fin des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être aussi parce qu'à cette époque où la France est écrasée, occupée, on a besoin de quoi ? De grandeur ?
On a besoin d'évasion, Froufrou et Viens Poupoule qu'on écoutait tout à l'heure. Oui. On a besoin effectivement aussi de se retremper dans des valeurs refuges.
Oui, et puis à une époque où la France était grande.
À une époque où la France était à l'époque où la France... Et ça revient, c'est peut-être encore plus fort après-guerre, dans les années avec De Gaulle et dans les années 50, oui. Où là, on est en train de perdre notre empire colonial, la France n'est plus une grande puissance, oui. Hein, on était là en 44-45, mais enfin, on n'était pas très bien là quand même. Oui. Et donc, célébrer le moment où la France était une grande puissance, le moment où la France était maîtresse du jeu international, et où ça, à ce moment-là, c'est très important dans les années 50. C'est même le moment où la Belle Époque est le plus célébrée, notamment par le cinéma.
Alors justement, vous avez mis en couverture de votre livre, Dominique Khalifa, une photo du film Casque d'or.
Oui, Jacques Becker, ouais. 1955.
Alors pourquoi ? Parce que on est justement dans ce que vous décrivez.
Rappelez-nous le casting.
Alors avec, bien sûr, Reggiani et Simone Signoret dans les rôles de Casque d'or et de Mandat. Bah, c'est un très beau film qui fait retour sur une affaire de la Belle Époque. La véritable histoire de Casque d'or, c'est 1902. Hein, c'est le combat homérique d'un voyou et d'une prostituée, pour les beaux yeux d'une prostituée. De deux voyous plutôt pour les beaux yeux d'une prostituée. Mais si vous voulez, ce que j'aime beaucoup dans ce film, comme d'ailleurs dans tous ces films, il y a une cinquantaine de films tournés dans les années 50 sur la Belle Époque, c'est qu'effectivement, ils vont mobiliser, ils vont convoquer tous les stéréotypes, tous les clichés pour nous, pour faire de nous effectivement les spectateurs de ce début du siècle complètement réinventé et pour partie fantasmé. Hein.
Oui, parce que c'était pas si... tout le monde n'en a pas forcément profité de ce que vous décriviez tout à l'heure.
On a parlé du beau côté de la Belle Époque. Il y aurait toute la face sombre. C'est aussi le moment effectivement où le monde ouvrier connaît sans doute effectivement une situation très très difficile. C'est le moment où dans les campagnes de France, on est loin d'avoir l'eau, l'électricité qu'on évoquait tout à l'heure. C'est le moment où les luttes sociales sont extrêmement violentes. Il n'y a jamais eu tant de grèves, tant de manifestations, tant de morts dans les manifestations qu'à cette période. C'est aussi une période de grande violence et de grande violence sociale. Et ça, c'est des choses qu'on va redécouvrir. C'est assez amusant, on la redécouvre tout le temps, la Belle Époque. C'est des choses qu'on va retrouver dans les années 80. Enfin, après 68, on va au contraire montrer que la Belle Époque, c'était le grand moment des rebelles, des militants anarchistes. Donc on la réinvente en permanence selon nos besoins.
Et aujourd'hui, on en pense quoi de la Belle Époque ?
Alors aujourd'hui, c'est l'art et la culture. Hein. On est dans un moment très culturel et la chose qu'on fait revivre de la Belle Époque, l'époque, c'est quand même ce moment où la France était aux avant-portes, à l'avant-poste de la culture monde, où Paris donnait le ton à toutes les grandes villes du monde.
Voilà, et on retrouve la Parisienne, finalement, qui accueillait les visiteurs, les 51 millions, vous nous avez dit,
51 millions
de visiteurs qui sont venus voir l'exposition universelle à Paris pendant cette année 1900. Merci beaucoup, Dominique Khalifa. La véritable histoire de la Belle Époque, c'est publié chez Fayard.
Vous écoutez RTL.